Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, c'est une décision de justice importante qui a été rendue il y a quelques mois en Roumanie. Sept hommes d'un petit village accusés du viol d'une jeune fille ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 à 10 ans. Des sentences plus lourdes que celles qui avaient été prononcées en première instance. Peut-être parce qu'en attente de leur jugement placé sous contrôle judiciaire, ces hommes avaient entamé une véritable croisade de dénigrement à l'encontre de leurs victimes. En réaction, il y a tout juste un an, le journal Adevaroul avait lancé une campagne pour soutenir la jeune fille. Cette campagne et le jugement ont-ils eu un impact sur la mentalité et sur la société roumaine ? C'est le reportage de Julia Burke.
L'indignation, c'est le sentiment qui dominait en Roumanie il y a un an lorsque le quotidien Adevaroul a lancé sa campagne « Justice pour la jeune fille violée ». Ramona Oursou, la coordinatrice de la campagne, se souvient bien de ce qu'elle a ressenti lorsque les juges ont laissé les sept agresseurs retourner à Valen, le village où vivait également la victime. Ramona Oursou.
Les réactions des villageois ont été stupéfiantes. C'était choquant de voir que tout le monde était contre la jeune fille. Les gens disaient que ces garçons étaient de bons gars, qu'ils venaient d'une bonne famille, qu'on ne devait pas s'en prendre à eux, qu'ils ne méritaient pas de faire de la prison pour un simple viol. Cette violence à l'encontre de la jeune fille était perçue comme quelque chose de complètement normal. C'est vraiment ce qui m'a le plus indignée.
Une pétition en ligne, des émissions télévisées, des lettres de soutien, le cas de Vaslui et sa médiatisation ont provoqué un élan de solidarité inédit de la part des Roumains. Cette campagne a aussi permis d'ouvrir le débat autour des violences sexuelles, un sujet encore tabou. Irina Costache est militante féministe et fait partie du réseau Brisons le silence autour des violences sexuelles. Depuis la campagne d'Adevaroul, elle a remarqué certains changements dans les médias.
Je serais optimiste si je disais que la médiatisation de ce cas a amené un changement de mentalité. Par contre, avant, la majorité des violences sexuelles étaient présentées dans les médias comme une forme de divertissement. Les talk-shows étaient organisés pour débattre de la véracité d'un viol ou encore de la manière dont la fille était habillée. Après le cas de Vaslui, j'ai observé une autre manière journalistique d'aborder les viols, avec un peu plus d'empathie pour les victimes. Et un intérêt plus grand sur la manière dont la justice traite de ces cas.
Mais une simple campagne est loin de tout résoudre. Vaslui est l'un des départements les plus pauvres du pays, où les cas de violences sexuelles sont les plus nombreux. Ce qui n'est pas un hasard, car le chômage, le manque d'éducation et la pauvreté sont souvent la cause de violences. Ramona Oursou.
Pour que ce genre de campagne change vraiment les choses, il faudrait qu'elle ait le soutien des autorités roumaines. Ce que nous n'avons pas eu du tout. Elles sont plus intéressées par atteindre des objectifs au niveau pénal que par résoudre la question du financement de l'éducation ou celle de la création d'emplois dans ces communautés pauvres. Par exemple, les autorités locales de Vaslui nous ont laissé comprendre qu'on avait donné une image arriérée de leur département, ce qui n'est pas du tout normal de la part d'une institution.
Il reste donc beaucoup à faire dans le domaine de l'éducation, notamment celle des policiers ou des juges. Car même dans ces milieux, les préjugés à l'encontre des victimes persistent. Irina Costache a ainsi mis en place des ateliers de sensibilisation auprès des policiers afin de changer le regard qu'ils portent sur les femmes.
Les policiers font partie de la même société que tout le monde, une société qui blâme souvent les femmes pour la manière dont elles se comportent, s'habillent, vont en discothèque seules ou montent dans la voiture d'un gars qu'elles connaissent, comme c'était le cas à Vaslui. Concrètement, les policiers ont des difficultés à croire les victimes. Ils ont l'impression que ce sont elles qui, par leur comportement, ont provoqué l'agression. On doit leur expliquer que cela n'a rien à voir avec une provocation et que la loi roumaine est très claire sur le consentement mutuel.
Même au sein des écoles, l'éducation sexuelle est absente des programmes. C'est une matière optionnelle qui est enseignée dans trop peu d'établissements scolaires. Car bien souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui s'y opposent. Diana Neaga est féministe et enseignante dans une université bucarestoise. Ces derniers temps, elle a observé un changement de comportement chez certains parents.
La sexualité, c'est tellement normal que cela devrait être abordé à l'école. Car en Roumanie, il est impossible que l'éducation sexuelle soit faite par les parents. Eux-mêmes, sous le communisme, ils ont vécu une période pronataliste où la sexualité était complètement taboue. Donc ils n'ont aucun moyen de l'apprendre à leurs enfants. Cependant, certains parents commencent à prendre conscience de cela. Et au-delà de l'éducation, il doit exister aussi des discussions sur le thème de l'égalité des genres dans toutes les institutions.
Au niveau national, il semble que les autorités aient pris conscience de ce problème. En début d'année, Bucarest a ainsi ratifié la Convention d'Istanbul. Ce traité européen, qui entrera en vigueur en Roumanie à partir de septembre, définit plus clairement le concept de violence de genre. Il encadre aussi la protection des victimes et la pénalisation des agresseurs. De nombreuses féministes espèrent donc que cela fera bouger les lignes autant, voire plus, que la campagne d'Adevaroul.
Julia Burke à Bucarest. En Allemagne, ce sont les agressions sexuelles de centaines de femmes lors de la soirée du Nouvel An à Cologne qui ont incité le Bundestag à faire évoluer la loi. Les députés ont voté à l'unanimité une refonte du droit pénal en matière sexuelle avec pour objectif déclaré de mieux protéger les femmes. Un renversement de perspective attendu de longue date dans un pays où la victime devait jusqu'ici prouver qu'elle s'était défendue pour obtenir la reconnaissance du viol, Julien Méchaussier.
Non, c'est non. Tout acte sexuel commis contre la volonté identifiable d'une autre personne sera désormais reconnu comme une infraction pénale. Une révolution du droit allemand saluée par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Car jusqu'à présent, celles-ci étaient considérées avant tout comme de potentielles menteuses. C'était à elles de démontrer qu'elles avaient essayé de s'enfuir ou bien de résister. Si cette réforme a été impulsée en 2014, l'émotion suscitée par les agressions du Nouvel An a pesé sur la mouture de la nouvelle loi. Les attouchements en groupe constituent ainsi une infraction spécifique, tandis que les étrangers condamnés pourront être expulsés du pays. Une autre affaire très médiatisée est également intervenue dans les débats, celle concernant Gina-Lisa Loafing, ex-mannequin et starlette de télé-réalité, dont les accusations à l'encontre de deux hommes de viol en réunion avec qui elle a eu des rapports sexuels ont été mises en doute. Des débats filmés et diffusés sur Internet où l'on peut entendre Gina-Lisa Loafing répéter « non, non, non » et « arrête ». Lors d'un premier procès en 2015, elle n'avait pas pu prouver s'être défendue face à ses agresseurs présumés et avait été condamnée à verser 24 000 euros d'amende pour fausses accusations. Pour les associations, cette affaire est l'incarnation même d'une législation d'un autre temps. Pourtant, la proclamation par la loi du non c'est non fait aussi l'objet de critiques, avec la crainte d'une multiplication des dénonciations mensongères. Et pour de nombreux grands quotidiens du pays, cette loi ne change dans les faits pas grand-chose. Faute de témoins, la difficulté juridique reste la même, soit la parole de l'un contre la parole de l'autre.
La broderie de Madère est un artisanat vieux de plusieurs centaines d'années, pratiqué jusqu'au siècle dernier aussi bien par les femmes que par les hommes. Cette activité aurait pu disparaître si la mode internationale n'avait manifesté un vrai regain d'intérêt pour ces motifs cousus main. À Funchal, une maison de luxe, Bordal, a su saisir le créneau et commercialise dans le monde entier ses produits brodés. Un reportage de Frédéric Lebel.
Les murs sont tapissés d'immenses photos, noires et blancs, du début du siècle dernier. On y voit des femmes et des enfants de Madère brodés ensemble sur le pas de leur porte. Dans les ateliers de la maison Bordal, on respire cette tradition multicentenaire à tous les étages. Salette, responsable du contrôle qualité, vient y travailler chaque matin.
D'abord, c'est un frisson. Vous voyez, c'est ça. Non, le parfum du travail, tout ça, quand vous rentrez dedans, c'est une atmosphère. Enfin, moi, j'aime. C'est pour ça que je suis ici. Et toutes les dames qui sont ici aiment travailler.
Cette machine-là, c'est très ancienne. Elle a déjà plus qu'un siècle. Elle fait la perforation du motif. Elle n'est pas électrique. Ça fonctionne avec un pédale pour faire le petit trou.
Ce n'est pas qu'une question d'atmosphère. Ici, on brode suivant une technique très ancienne, celle du poncif, un calque perforé avec une machine à piquer, suivant le motif du dessin. Lorsqu'on l'enduit de poudre indigo, le dessin s'imprime en bleu sur le tissu. Il y a tout juste 18 ans, João Vacas a repris avec sa femme les rênes de cette maison qui était en faillite. Aujourd'hui, c'est une des dernières qui a encore pignon sur rue à Funchal.
Au cours des dernières années, beaucoup de compagnies ont dû fermer. Nous, on a procédé à beaucoup de changements pour rester. On a surtout amélioré l'organisation du travail. Tout le processus de fabrication a été informatisé. On a créé de nouveaux designs. On a un point de vente en ligne, donc on a une bonne visibilité à travers le monde. C'est un marché mondial et donc un travail mondial. On a des clients célèbres partout dans le monde. L'an dernier, on a travaillé avec une grande compagnie française, Chanel. On a fait des broderies pour la collection printemps-été. C'était un bon projet. Ici, on travaille généralement avec 500 brodeuses. Mais pour cette commande-là, on n'a retenu que les meilleurs, les 200 meilleurs.
Salat était une des brodeuses de la maison. Elle s'occupe aujourd'hui de vérifier le travail de ses collègues qui brodent chez elle et sont payées à la tâche. Mais elles ont toutes plus de 40 ans et la relève n'est pas assurée.
Nos jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas apprendre à broder, c'est simple. Nos vieilles ont appris à broder très jeunes. Quelques-unes avec 5-6 ans, j'apprenais à faire le plus facile, le pointige et les petites boules qu'on appelle ici granitio. Et après, ça s'apprend, c'est pas une école, on l'apprend pas à l'école, c'est de génération en génération, c'est de mère par fille. Les hommes aussi avant brodé. Maintenant, non, maintenant c'est fini. Mais avant, les hommes aussi brodaient. Mon père est arrivé à broder. Avant d'aller travailler, parce que l'école, il n'est pas allé à l'école. Avant d'aller travailler, il avait une marque que sa mère lui disait pour faire. Et vous voyez, c'est pas longtemps en arrière encore. Il a 70 ans.
En passant aux étages supérieurs, on trouve d'ailleurs les tissus qui ont été brodés à la maison par toutes ces petites mains et qui passent au lavage. 7 employés s'occupent à plein temps du repassage.
Une nappe en taille standard, 1,80 m sur 2,70 m. Il faut 1 heure pour repasser avec 4 dames. Nous avons une autre nappe qu'il est nécessaire 6 dames. Pour repasser, 2 personnes pour tirer et après 4 dames pour repasser. C'est beaucoup de travail ici.
Pour João Vacas, le patron, la production obéit à un rythme qui est bien celui d'une maison de luxe.
Tout le processus de fabrication est très long ici. Il faut d'abord créer le dessin, ensuite il faut perforer les feuilles pour pouvoir imprimer le tissu qui est ensuite envoyé chez les brodeuses. Alors, il revient à la fabrique pour être lavé et repassé. Et puis, il y a les travaux particuliers, comme le point Richelieu. Pour une grande nappe, il faut compter 1 an pour la broderie. Et ensuite, il faut découper à l'intérieur des broderies. Et ça, ça prend 1 mois. Donc, tout le processus est vraiment très long.
Le prix est à la hauteur de l'ouvrage. 5 000 euros en magasin pour une grande nappe de table, 1 an de travail. Mais les brodeuses, elles, ne sont payées qu'au point, un tout petit salaire qui ne contribue pas à créer des vocations.
Le reportage de Frédéric Lebel à Madère a retrouvé en images sur notre site RFI.fr à la page émission avec un diaporama signé Pierre-René Worms.
Jeunes européens.
Des européens comme les autres.
Jeunes
européennes.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Les jeunes européens les plus chanceux sont sur le point de faire leur valise pour profiter des vacances. Et s'ils souhaitent faire des rencontres ailleurs en Europe, il ferait mieux de réviser les petits surnoms amoureux que se donnent les jeunes européens partout sur le continent. Vous leur proposez aujourd'hui une anti-sèche, Eve.
C'est au site de rencontre en ligne e-Darling que l'on doit cette enquête, réalisée auprès de 7780 célibataires venant de 15 pays d'Europe. Premier enseignement, la pratique est répandue sur tout le continent, même si les petits surnoms sont généralement à utiliser avec parcimonie. La plupart des personnes interrogées trouvent que les sobriquets qu'elles utilisent avec leurs partenaires relèvent de l'intimité. Certains considèrent même qu'un dérapage public est carrément embarrassant.
Alors, autre enseignement de cette étude, un surnom, ça se choisit à deux.
C'est largement conseillé, oui, on aurait pu s'en douter. Le site de rencontre cite même une étude menée par l'université américaine de Louisville dans le Kentucky qui établit que l'utilisation répétitive d'un surnom non apprécié par le conjoint peut conduire plus rapidement à l'infidélité et à la séparation. Vaut mieux peut-être éviter du coup.
Mais surtout, Eve, l'enquête permet de dresser une carte de l'Europe des surnoms amoureux, une carte plutôt surprenante.
Où l'on apprend qu'en France, Mon Cœur est le petit nom préféré des Français, utilisé quand même par un couple sur quatre, et Mon Lapin le plus rare. On y lit aussi que les germanophones préfèrent appeler leur moitié Chatsi, les Espagnols Cielo, Mon Ciel, Mon Paradis, les Hongrois Tsitsa, Chaton, les Finlandais reçoivent la palme de la romance en couvrant leur bien-aimé d'or, Kulta, en Pologne et en Irlande, le bébé domine. Évidemment, tous ces petits noms diffèrent en fonction de chacun et le site ne recense que les plus courants.
Et Eve, bien sûr, vous n'avez pas résisté à la tentation de classer ces surnoms amoureux en trois catégories.
Oui, exactement. Il y a d'un côté les références à la préciosité de son partenaire avec les choses plus rares. Le trésor, par exemple, dans les pays germanophones, ou l'or finlandais. Les choses plutôt mignonnes et fragiles, comme le bébé danois, polonais ou irlandais, ou encore le chaton hongrois. Et enfin, les références plutôt neutres, comme au Royaume-Uni, en République tchèque ou en Norvège, où le chéri domine. Restent les inqualifiables, le ciel espagnol, le miel suédois, ou encore le cœur français, qui en éternel romantique, est quand même le seul Européen à désigner son ou sa bien-aimée comme une partie de lui-même.
Et puis une statistique surprenante que vous avez trouvée donc dans une enquête réalisée par un site de voyage.
Cette enquête réalisée auprès de 5000 Européens il y a 2 ans, cette fois-ci par le site lastminute.com, établit que 23% des sondés en Europe préfèrent voyager avec leur ex plutôt que d'annuler leurs vacances après une rupture. Le phénomène a déjà concerné 15% des Français, selon ce sondage, ce qui n'est rien comparé aux 39% de Britanniques ayant également répondu par l'affirmative. Pire, la même proportion de Britanniques toujours déclare que cela leur est déjà arrivé de ne pas rompre pour éviter d'avoir à annuler les vacances.
À la grande classe, en effet. Et bien sûr, ces bonnes paroles, Eve Minot, on souhaite bon voyage et bonne chance à tous les jeunes Européens, célibataires ou non. Et puis, bonnes vacances en amoureux à vous aussi.
Bonnes vacances, Laurent, et bonnes vacances à tous.
Et si pour vos vacances, vous avez décidé de visiter cette superbe capitale qu'est Ljubljana en Slovénie, vos pas vous porteront peut-être vers l'hôtel Tselitsa, une ancienne prison en fait transformée en auberge de jeunesse. Simon Rico a passé la nuit en cellule.
Pour présenter leur établissement, les propriétaires de l'hostel Tselitsa ont coutume de dire qu'ils rassemblent cultures et opinions après les avoir divisées pendant plus d'un siècle. Bâti en 1882 par l'armée austro-hongroise, le bâtiment a servi de prison jusqu'au départ des troupes yougoslaves en 1991, au moment de l'indépendance de la Slovénie. Bien décidés à éradiquer les stigmates du passé socialiste et impérial du pays, les nouvelles autorités slovènes décident alors de raser la caserne militaire de Metelkova, dont faisait partie la prison. Au bout d'une intense bataille judiciaire de 10 ans, les militants du réseau associatif pour sauver la caserne obtiennent en 2001 le soutien de la municipalité pour faire de l'ancienne prison une auberge de jeunesse. Pendant 2 ans, des artistes venus de tous horizons investissent les anciennes cellules et les redécorent en conservant les objets symbolisant l'univers carcéral. D'ailleurs, Tselitsa signifie « cellule ». L'objectif de cette réhabilitation, montrer qu'une prison peut devenir un espace ouvert. Chacune des 20 cellules est ainsi devenue une chambre unique où cohabitent barreaux métalliques, œuvres d'art et mobilier design. Depuis son ouverture en 2003, l'hostel Tselitsa collectionne les distinctions et les prix internationaux pour son service et son originalité. Notre établissement a toujours été un maître étalon du tourisme de jeunesse, se félicite son directeur, Tomáš Juvan. Récemment, l'auberge de jeunesse a reçu le label Travel Life Gold, qui récompense le respect du développement durable. Un label qui était jusque-là réservé aux hôtels de standing.
Jérémy Besset a réalisé et mis en onde cette émission. On se retrouve demain dès 17h40 en universel. Les plaisirs.